Chapitre 80. Combattre la pluie.
Vous devez devenir roi de tout. Extrait du diagramme. Principe d'instruction. Arrière du pied de lit. Paragraphe 1.
Shallan luttait contre le vent, resserrant autour d'elle son manteau coupe-tempête, qu'elle avait volé à un soldat, tandis qu'elle gravissait péniblement la pente glissante. «
Clarissime ! »
demanda Gaz, qui tenait son chapeau pour empêcher le vent de l'emporter.
« Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?»«
Évidemment, » répondit Shallan. « Quant à savoir si ce que je fais est judicieux, eh bien, c'est une autre histoire. » Ces vents étaient inhabituels pour la saison des pleurs, censée être une période de pluie tranquille. Une période pour méditer sur le Tout-Puissant, un répit vis-à-vis des tempêtes majeures. Peut-être les choses étaient-elles différentes, ici, dans les terres d'orage. Elle se hissa sur les rochers. Les plaines brisées étaient devenues de plus en plus accidentées à mesure que les armées voyageaient vers l'intérieur des terres. Elles en étaient à leur 8e jour d'expédition, en suivant la carte que Shallan avait créée avec l'aide de Hlaïn, l'ancien homme de pont. Shallan atteignit le sommet de la formation rocheuse et découvrit la vue que les éclaireurs avaient décrite. Vatat et Gaz approchèrent derrière elle à pas pesants, ronchonnant contre le froid. Le cœur des plaines brisées s'étendait devant elle. Les plateaux intérieurs, jamais explorés par les hommes. « C'est ici, » dit-elle. Gaz gratta l'orbite au-dessous de son bandeau.
« Des rochers ?»«
Oui, garde Gaz, » répondit Shallan. « Des rochers. » De splendides et merveilleux rochers. Au loin, elle vit des ombres drapées d'un voile de pluie nébuleux. En les voyant ainsi groupées, le doute n'était plus permis. C'était bel et bien une ville. Une ville recouverte de siècles de crémons. Comme des cubes d'enfants sur lesquels de nombreuses couches de cire fondue seraient tombées goutte à goutte. Un regard innocent aurait certainement trouvé cette vue identique au reste des plaines brisées. Mais il se jouait tellement plus ici. C'était une preuve. Même cette formation sur laquelle se tenait Shallan avait sans doute été autrefois un bâtiment, usé par les intempéries du côté des tempêtes, recouvert de filets de crémons le long du côté sous le vent pour créer la pente irrégulière et arrondie qu'ils avaient gravie.
Clarissime !
Elle ignora les voix provenant d'en bas et demanda la lunette d'un signe impatient. Gaz la lui tendit et elle la leva pour inspecter les plateaux un peu plus loin. Malheureusement, l'engin s'était couvert de condensation d'un côté. Elle tenta de l'essuyer, tandis que la pluie tombait sur elle, mais la buée se trouvait à l'intérieur. Foudre d'engin.
« Clarissime ! » demanda Gaz. « Est-ce que nous ne devrions pas, écouter ce qu'ils nous disent en bas ?»«
On a encore aperçu des parchendis tordus, » répondit Shallan en levant de nouveau la lunette. Le concepteur de l'appareil n'aurait-il pas dû le construire de manière qu'il soit scellé à l'intérieur ? Afin d'empêcher l'humidité d'y pénétrer. Gaz et Vatat reculèrent, tandis que plusieurs membres du pont 4 atteignaient le haut de la pente.
Clarissime !
Dit l'un des hommes de pont.
Le haut prince d'Alinar a fait se retirer l'avant-garde et a ordonné qu'on crée un périmètre de sécurité sur le plateau derrière nous.
C'était un homme grand et séduisant, dont les bras semblaient beaucoup trop longs pour son corps. Shallan regarda les plateaux intérieurs avec mécontentement.
« Clarissime !»
poursuivit l'homme de pont à contre-cœur.
« Il a dit que, si vous ne veniez pas, il enverrait Adeline, vous emporter sur son épaule. Shen, Hlaïn, dit que nous avons pratiquement atteint le plateau qui leur sert de foyer, Clarissime. Nous avons aperçu leur patrouille en trop grand nombre. »«
Nous devons arriver jusque-là, » répondit Shallan, doigt tendu. « C'est là que se trouvent les secrets. »«
Clarissime !»«
Très bien. » répondit-elle en se retournant pour redescendre la pente. Elle dérapa, ce que sa dignité n'apprécia guère, mais Vatat l'attrapa par le bras avant qu'elle ne dégringole à plat ventre. Une fois en bas, ils traversèrent rapidement ce plateau plus petit, rejoignant des éclaireurs qui couraient en direction du gros de l'armée. Hlaïn affirmait ne rien savoir lui-même sur la porte du pacte, ni même en réalité sur la cité qu'il appelait Narak, plutôt que siège des vents. Il affirmait que son peuple ne s'y était installé de manière permanente qu'après l'invasion à Leti. Lors de la progression vers l'intérieur, les soldats de Dalinar avaient aperçu un nombre croissant de Parchendi, qu'ils avaient affrontés lors de brèves escarmouches. Le général Kahl pensait que ces incursions avaient été conçues pour détourner l'armée de son trajet, quoique Shallan ignore comment il avait pu le déterminer. Elle savait en revanche qu'elle commençait à se lasser d'être constamment trempée. Il se trouvait ici depuis près de 2 semaines, et certains soldats commençaient à marmonner que l'armée aurait bientôt besoin de regagner les camps de guerre, sous peine de ne pas pouvoir rentrer avant le retour des tempêtes majeures. Shallan traversa le pont d'un pas énergique et longea plusieurs rangées de lanciers qui s'installaient derrière de courtes arêtes de pierre pareilles à des vagues, sans doute les contreforts d'anciens murs. Elle trouva Dalinar et les autres hauts princes dans une tente établie au milieu du camp. Elle faisait partie d'un ensemble de 6 tentes identiques, et rien ne trahissait au premier abord laquelle renfermait les 4 hauts princes. Une précaution liée à la sécurité, supposa-t-elle. Quand Shallan y entra à l'abri de la pluie, elle fit intrusion dans leur conversation.
Le plateau actuel offre des positions défensives très favorables, déclara Aladar en désignant une carte posée devant eux sur la table de voyage. Je préfère conserver ici nos chances contre une attaque plutôt que de nous enfoncer plus loin.
Et si nous nous enfonçons ? Répondit Dalinar avec un grognement. Nous risquerons de nous faire séparer au cours d'une attaque. Une moitié sur un plateau, l'autre moitié ailleurs.
Mais ont-ils réellement besoin d'attaquer ? Demanda Royon.
À leur place, je me mettrai en rang ici comme pour préparer une attaque. Mais ensuite, je ne le ferai pas. J'essaierai de gagner du temps en obligeant mon ennemi à se retrouver coincé ici dans l'attente d'une attaque jusqu'au retour des tempêtes majeures.
Il a raison, admit Aladar.
On peut toujours faire confiance à un lâche, commenta Sébarial, pour trouver la manière la plus astucieuse d'éviter de se battre.
Il était assis avec Palona, près de la table où il mangeait des fruits en souriant aimablement.
Je ne suis pas un lâche, répondit Royon en serrant les poings. Ce n'était pas une insulte, répondit Sébarial. Mes insultes sont beaucoup plus piquantes. C'était un compliment. Si je le pouvais, Royon, je vous engagerais pour diriger toutes les guerres. Je soupçonne qu'il y aurait beaucoup moins de victimes, et le prix des sous-vêtements doublerait une fois que les soldats apprendraient que vous les dirigez. Je me ferai une fortune.
Shallan tendit son manteau dégoulinant à un serviteur, puis ôta son chapeau et entreprit de se sécher les cheveux à l'aide d'une serviette.
Nous devons avancer vers le centre des plaines, déclara-t-elle.
Royon a raison. Je refuse de donner l'autorisation de bivouaquer. Les Parchendi se contenteraient d'attendre. Les autres la regardèrent.
Clarissime Shallan, rétorqua Dalinar.
J'ignorais que c'était vous qui décidiez de nos tactiques.
C'est notre propre faute, Dalinar, répondit Sébarial, pour lui avoir donné une telle liberté. Nous aurions sans doute dû la jeter du haut du pinacle il y a quelques semaines, dès qu'elle est arrivée en interrompant cette réunion.
Shallan méditait une répartie quand les pans de la tente s'écartèrent pour laisser entrer Adoline, qui avançait en traînant les pieds, sa cuirasse ruisselante. Il releva sa visière. Nom des bourrasques. Il était si séduisant, même lorsqu'on ne voyait que la moitié de son visage. Elle sourit.
Ils sont effectivement agités, commenta Adoline.
Puis il la vit et lui adressa un sourire rapide avant d'approcher de la table en cliquetant.
Il y a au moins 10 000 de ces Parchendi tordus là-dehors, qui se déplacent en groupe autour des plateaux.
10 000 ? Répéta Aladar avec un grognement. C'est un nombre que nous pouvons affronter, quoiqu'il possède l'avantage de connaître le terrain. Même si nous devons attaquer plutôt que défendre, nous devrions pouvoir affronter ce nombre sans aucun mal. Nous avons plus de 30 000 hommes. C'est ça que nous sommes venus faire, déclara Dalinar.
Il se tourna vers Shallan, qui rougit de son effronterie d'un peu plus tôt.
Votre portail, celui que vous pensez trouver ici, où se situerait-il ?
Plus près de la ville, répondit-elle.
Et ses yeux rouges ? Demanda Royon, l'air très mal à l'aise. Et les éclairs lumineux qu'ils provoquent quand ils se battent ? Nom des foudres ! Quand j'ai parlé tout à l'heure, je ne voulais pas dire que je souhaitais que nous avancions davantage. Je m'inquiétais seulement de ce que feraient les Parchendi. Il n'y a aucune manière évidente de nous y prendre, n'est-ce pas ?
D'après ce que Rlaïn nous en a dit, intervint Navani depuis son siège sur le côté de la pièce, Seuls leurs soldats peuvent sauter entre les plateaux. Mais nous pouvons supposer que la nouvelle forme en est également capable. Ils peuvent s'enfuir si nous continuons à avancer. Dalinar secoua la tête. S'ils se sont établis dans les plaines au lieu de s'enfuir toutes ces années auparavant, c'est parce qu'ils savaient tenir là leur meilleure chance de survie. Sur la pierre ininterrompue des terres d'orage, ils auraient pu se faire pourchasser et détruire. Ici, ils ont l'avantage. Ils ne vont pas l'abandonner maintenant, pas s'ils pensent être en mesure de nous vaincre. Dans ce cas, si nous voulons les obliger à se battre, répondit Aladar, nous devons menacer leur foyer. J'imagine que nous devrions réellement avancer vers la ville. Shallan se détendit. Chaque pas qui les rapprochait du centre, d'après les explications de Rlaïn, il n'était qu'à une demi-journée de distance. La rapprochait aussi de la porte du pacte. Dalinar se pencha vers l'avant, main tendue sur les côtés, et son ombre tomba sur les cartes de bataille.
Très bien. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour me plier craintivement aux caprices des Parchendi. Demain, nous allons marcher vers l'intérieur, menacer leur cité et les obliger à nous combattre. Plus nous approcherons, nota Sebarial, plus il est probable que nous nous retrouvions isolés sans espoir de retraite.
Dalinar ne répondit pas, mais Shallan savait ce qu'il pensait. Nous avons renoncé à tout espoir de retraite il y a déjà plusieurs jours. Une fuite interminable à travers les plateaux serait une catastrophe si les Parchendi décidaient de les harceler. Les Aleti allaient se battre ici et gagner, s'emparant ainsi de l'abri de Narak. C'était leur seule option. Dalinar leva la séance et les hauts princes partirent, entourés par des groupes d'aides de camp munis de parapluies. Shallan attendit, tandis que Dalinar soutenait son regard. Quelques instants plus tard, ne restèrent qu'elle, Dalinar, Adolin et Navani. Cette dernière s'approcha de Dalinar et lui prit le bras avec les siens. Une posture intime.
Ce portail dont vous parlez, reprit Dalinar.
Oui, demanda Shallan. Dalinar leva la tête pour la regarder à nouveau.
Dans quelle mesure est-il réel?
Jasna était persuadée qu'il existait bel et bien. Elle ne se trompait jamais.
Ce serait un moment foudrement mal choisi pour qu'elle nous contredise là-dessus, dit-il tout bas. C'est en partie à cause de votre exploration que j'ai accepté de continuer à avancer.
Merci.
Je ne l'ai pas fait au nom de l'érudition, précisa-t-il. D'après ce que m'apprend Navani, ce portail offre une occasion de retraite inédite. J'avais espéré vaincre les Parchendi avant que le danger, quel qu'il soit, ne nous dépasse. À en juger par ce que nous avons vu, il est arrivé tôt.
Shallan hocha la tête.
Demain est le dernier jour du compte à rebours, poursuivit Dalinar, griffonné sur les murs pendant les tempêtes majeures. Quoi que ça ait pu être, nous l'affronterons demain. Et vous êtes mon plan de secours, Shallan Davar. Vous allez découvrir ce portail et vous allez le faire fonctionner. Vous êtes peut-être la seule chance de survie que possèdent nos armées, voire Aletkar lui-même.
Les jours s'écoulèrent et Kaladin refusa de se laisser dominer par la pluie. Il traversait le camp en boitant, utilisant une béquille que Lopen était allé lui chercher tout en protestant qu'il était trop tôt pour que son capitaine soit sur pied. L'endroit était toujours vide, à l'exception de quelques parches qui traînaient du bois des forêts extérieures ou transportaient des sacs de céréales. Le camp ne recevait pas de nouvelles de l'expédition. Le roi devait sans doute être informé par Echo Kalam, mais il ne partageait pas les nouvelles avec tous les autres. Nom des foudres, que cet endroit paraît sinistre. Songea Kaladin qui dépassa en boitant les baraquements déserts, tandis que la pluie crépitait sur le parapluie que Lopen avait attaché à sa béquille. Ça fonctionnait, plus ou moins. Il croisa des sprènes de pluie, pareils à des bougies bleues qui poussaient du sol, chacun possédant un œil unique au milieu de son sommet. Kaladin les avait toujours détestés. Il lui fichait la trouille. Il luttait contre la pluie. Où était la logique dans tout ça? Parce qu'il avait l'impression que la pluie voulait qu'il reste à l'intérieur, il sortait. Parce qu'elle voulait qu'il cède au désespoir, il s'obligeait à réfléchir. Quand il grandissait, Il avait eu Tien pour l'aider à lutter contre la mélancolie. Désormais, le simple fait de penser à son frère intensifiait cette mélancolie, même s'il ne pouvait pas l'éviter. La saison des pleurs lui rappelait Tien. Son rire, quand les ténèbres menaçaient. Sa nature enjouée, son optimisme insouciant. Ces images livraient bataille avec celle de la mort de Tien. Kadadine ferma très fort les paupières, s'efforçant de chasser ce souvenir. Celui du frêle jeune homme, à peine entraîné, en train de se faire abattre. La propre compagnie de soldats de Tien l'avait placé à l'avant, pour détourner l'attention, un sacrifice destiné à ralentir l'ennemi. Kadadine serra la mâchoire et ouvrit les yeux, fini de se morfondre. Il refusait les pleurnicheries comme la complaisance. D'accord, il avait perdu Syl. Il avait perdu beaucoup de gens qui lui étaient chers au cours de sa vie. Il survivrait à cette souffrance comme il avait survécu aux autres. Il continua sa tournée clopinante des baraquements. Il le faisait 4 fois par jour. Lopen l'accompagnait parfois, mais Kadadine était seule aujourd'hui. Il pataugeait dans des flaques d'eau et se surprit à sourire parce qu'il portait les bottes que Shallan lui avait volées. « Je n'ai jamais cru qu'elle était manche-corne, » songea-t-il. « Il faudra que je le lui fasse savoir. » Il s'arrêta, s'appuya sur la béquille et observa les plaines brisées à travers la pluie. Il n'y voyait pas très loin. La brume pluvieuse l'en empêchait. « Revenez sain et sauf, » adressa-t-il en pensée à ceux qui se trouvaient là-bas, tous autant que vous êtes. « Cette fois, si quelque chose tourne de travers, je ne pourrai pas vous aider. » Rock, Teft, Dalinar, Adeline, Shallan, tous les membres du pont 4, tous étaient entièrement seuls. Le monde serait-il très différent si Kadadine avait été un homme meilleur? S'il avait utilisé ses pouvoirs et qu'il était revenu au camp de guerre avec Shallan rechargé en fulgiflamme? Il était passé si près de dévoiler ce dont il était capable. Tu pensais à ça depuis des semaines, songea-t-il. Tu ne l'aurais jamais fait. Tu avais trop peur. Il détestait le reconnaître, mais c'était vrai. En tout cas, si ses soupçons concernant Shallan se vérifiaient, peut-être Dalinar tiendrait-il son radieux de toute manière. Puisse-t-elle mieux s'en sortir que Kadadine ne l'avait fait? Il continua K1KA jusqu'au baraquement du pont 4. Il s'arrêta lorsqu'il aperçut une riche voiture qui patientait devant, tirée par des chevaux portant les couleurs du roi. Kadadine jura et s'avança en clopinant. Lopen accourut à sa rencontre sans porter de parapluie. Beaucoup de gens renonçaient à rester secs pendant la saison des pluies. « Lopen !» s'exclama Kadadine. « Qui a-t-il »«
Il vous attend, Gancho !» répondit Lopen avec un geste impatient. « Le roi en personne !»
Kadadine boitilla plus vite jusqu'à sa chambre. La porte était ouverte et Kadadine y découvrit le roi Elokar en train d'inspecter la petite pièce. Moash gardait la porte et Taka, un ancien membre de la garde royale, se tenait plus près du roi. « Majesté ?» demanda Kadadine.
« Ah !» répondit le roi. « Homme de pont !»
Elokar avait les joues rouges. Il avait bu, quoiqu'il ne paraisse pas ivre. Kadadine comprenait. Une fois Dalinar et son regard désapprobateur disparus pour un temps, c'était sans doute agréable de se détendre avec une bouteille. Lorsque Kadadine avait rencontré le roi, il avait songé qu'Elokar possédait une allure affreusement peu royale. Curieusement, il trouvait à présent qu'Elokar ressemblait bel et bien à un roi. Ce n'était pas que le roi ait changé. L'homme possédait toujours ses traits impérieux, avec ce nez trop grand et cette attitude condescendante. Le changement s'était produit chez Kadadine. Les choses qu'il associait précédemment à la royauté, l'honneur, la force, la noblesse, avaient été remplacées par les attributs moins édifiants d'Elokar. « C'est vraiment là tout ce que Dalinar attribue à l'un de ses officiers ?» demanda Elokar en désignant la pièce.
« Cet homme-là, il s'attend à ce que tout le monde vive dans la même austérité que lui. C'est comme s'il avait totalement oublié comment s'amuser. »
Kadadine se tourna vers Moash, qui haussa les épaules dans un cliquetis de cuirasse. Le roi s'éclaircit la gorge.
On m'a dit que vous étiez trop faible pour venir jusqu'à moi. Je constate que ce n'est peut-être pas le cas.
Je suis désolé, Majesté, répondit Kaladine. Je ne suis pas en forme, mais je marche chaque jour dans le camp pour reprendre des forces. Je craignais que ma faiblesse et mon apparence ne soient une offense vis-à-vis du trône.
Vous avez appris à parler en termes politiques, je vois, répondit le roi en croisant les bras. La vérité est que mes ordres ne signifient plus rien, même pour un sombriris. Je n'ai plus d'autorité aux yeux des hommes.
Génial. Nous y revoilà.
Le roi fit un signe brusque. Dehors, vous deux! Je souhaite parler à cet homme seul à seul.
Morash lança un coup d'œil furtif à Kaladine, l'air inquiet. Mais Kaladine hocha la tête. À contre-cœur, Morash et Taka sortirent, fermèrent la porte et les laissèrent à la lumière des quelques sphères déclinantes disposées par le roi. Bientôt, elles ne contiendraient plus du tout de fulgiflammes. La dernière tempête majeure remontait à trop loin. Ils allaient devoir ressortir les bougies et les lampes à huile.
« Qui vous a appris, lui demanda le roi, à vous comporter en héros ?»«
Pardon, Majesté, demanda Kaladine en s'affaissant sur sa béquille.
« Un héros !»
répondit le roi avec un geste désinvolte.
« Tout le monde vous aime, homme de pont. Vous avez sauvé Dalinar, combattu des porte-éclats, vous êtes revenu après une chute dans les gouffres, nom des foudres. Comment avez-vous fait? Comment avez-vous su ?»«
Une simple histoire de chance, Majesté. »«
Non, non !» répondit le roi, qui se mit à faire les 100 pas. « C'est un schéma, bien que je ne parvienne pas à le déchiffrer. Quand j'essaie de me montrer fort, je me ridiculise. Quand j'essaie d'être clément, les gens me piétinent. Quand j'essaie d'écouter les conseils, il s'avère que j'ai choisi les mauvaises personnes. Quand j'essaie de tout faire seul, Dalinar est obligé de prendre le relais pour éviter que je ne ruine le royaume. Comment les gens savent-ils que faire? Pourquoi est-ce que je ne le sais jamais, moi ? Je suis né pour cette fonction. J'ai reçu ce trône du Tout-Puissant en personne. Pourquoi me donnerait-il ce titre, mais pas la capacité qui devrait l'accompagner? Ça défie toute raison. Et pourtant, tout le monde semble savoir des choses que j'ignore. Mon père était capable de diriger même des gens comme Sadeas. Les hommes aimaient Gavilar, le craignaient et le servaient tout à la fois. Je n'arrive même pas à me faire obéir d'un sombre hérisse à qui je demande de me rendre visite au palais. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Que faut-il que je fasse?
Kaladine recula, abasourdi par sa franchise. Pourquoi me demandez-vous ça, Majesté?
Parce que vous connaissez le secret, répondit le roi sans cesser de faire les 100 pas. J'ai bien vu comment les autres vous considèrent. Je les ai entendus parler de vous. Vous êtes un héros, homme de pont.
Il s'arrêta, puis se dirigea vers Kaladine et le prit par les bras.
« Pouvez-vous me l'apprendre ?»
Kaladine le regarda, sidéré.
« Je veux devenir le même genre de roi qu'était mon père, » ajouta Ilokar. « Je veux diriger les hommes, et je veux qu'ils me respectent !»«
Kaladine déglutit. « Je ne sais pas si c'est possible, Majesté. » Ilokar scruta Kaladine en étrécissant les yeux.
« Alors vous dites toujours ce que vous pensez, malgré les ennuis que ça vous a apportés. »
« Dites-moi une chose, homme de pont. Me considérez-vous comme un mauvais roi ?»«
Oui. »
Le roi inspira vivement sans lui lâcher les bras. « Je pourrais le faire ici même, » comprit Kaladine. « Abattre le roi, placer Dalinar sur le trône. Pas de cachotterie ni de secret. Pas d'assassinat lâche. Un combat entre lui et moi. »
Ça semblait une manière de procéder plus honnête. Bien sûr, Kaladine se ferait sans doute exécuter, mais il découvrit que ça ne le dérangeait pas.
Fallait-il qu'il le fasse, pour le bien du royaume? Il imaginait très bien la colère de Dalinar, sa déception. La mort ne dérangeait pas Kaladine, mais décevoir Dalinar... Bourrasque. Le roi lâcha prise et s'éloigna d'un pas raide.
« Bon, c'est moi qui vous ai posé la question, » marmonna-t-il pour lui-même. « Je dois simplement vous rallier à ma cause, vous aussi. Je vais trouver comment faire. Je serai un roi dont on se souviendra. »
« Ou vous pourriez faire ce qui vaut le mieux pour Aletkar, » déclara Kaladine, « et vous retirer. » Le roi s'arrêta net. Il se retourna vers Kaladin, l'expression plus sombre. « Ne dépassez pas les bornes, homme de pont !»« Bah, je n'aurais jamais dû venir ici !»«
Je suis d'accord sur ce point, » répondit Kaladin. Il trouvait toute cette expérience totalement irréelle.
Elokar fit mine de partir. Il s'arrêta sur le pas de la porte, sans regarder Kaladin.
« Quand vous êtes arrivé, les ombres sont parties. »«
Les ombres ?»«
Je les voyais dans les miroirs, du coin de l'œil. »« J'aurais juré que je les entendais même murmurer, mais vous les avez effrayés. »«
Je ne les ai pas revus depuis. Il y a quelque chose chez vous. Ne cherchez pas à le nier. » Le roi se tourna vers lui.
« Je suis désolé pour ce que je vous ai fait. Je vous ai regardé vous battre pour aider Adeline, et puis je vous ai vu défendre Rhaenarine, et j'en ai conçu de la jalousie.
Vous étiez là, un tel champion, aimé de tous, alors que tout le monde me déteste. J'aurais dû aller me battre moi-même.
Au lieu de quoi, j'ai eu une réaction excessive quand vous avez défié Amaram.
Ce n'est pas vous qui avez gâché nos chances contre Sadeas.
C'était moi. Dalinar avait raison, une fois de plus. Je suis tellement là qu'il est toujours raison et moi tort. À la lumière de cet événement, je ne suis aucunement surpris que vous me considériez comme un mauvais roi.
Elokar ouvrit la porte et quitta la pièce.